gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir et bienvenue dans La Causerie, dimanche 22-23h sur Radio Canu ou sur radiocanu.org partout dans le monde. Oui, parce que on va se la péter, partout dans le monde nous sommes diffusés. Voilà, il fallait
Exactement.
Le faire.
Exactement, c'est beau.
Et ce soir autour de la table nous avons, enfin, on va vous expliquer. En fait, la technique n'est pas autour de la table. Ça fait des années qu'on dit ce soir autour de la table. Non, la technique elle est un petit peu plus loin. Mais à la technique on a Clara.
Bonsoir.
Ça va?
Oui.
Ouais. Pas de neige, rien t'a pu arriver?
Non, ça va.
Voilà, parce qu'alerte météo, attention, il y a de la neige en oui. ce moment, c'est l'hiver. Ensuite, nous avons Jonathan.
Salut.
Donc, et Stan.
Salut.
Voilà. Bon, quoi.
Et il y a Fab aussi, attends.
Ouais, c'est moi.
Tu te présentes pas?
Oui, salut, moi voilà. C'est Fab, voilà, je fais les émissions de radio. Et donc, bah, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Bah, déjà, on peut vous dire que vous pouvez aller sur notre blog pour écouter les anciennes émissions. Ou même les télécharger, parce que pour les gens qui nous écrivent en disant oui alors c'est bien, mais sauf que quand on met play ça marche pas vraiment vite, c'est parce qu'en fait le serveur de Radio Canu a une connexion de merde, donc on vous conseille plutôt de télécharger l'émission avec le petit lien qui est en dessous, clique droit, tu télécharges, ça marche bien, et ça se passe sur blogs.radiocanu.org/lacauserie, où tu vas sur les blogs de Radio Canu et tu cherches La Causerie, on y est, ça tombe plutôt bien.
Voilà.
Et on a un mail aussi. Alors, les... Jonathan, tu peux donner le mail.
Ça marche. Si vous voulez nous envoyer un mail, vous envoyez à lacauseriecanu@gmail.com avec La Causerie Canu tout attaché.
Voilà. Et on répond en général. Des fois, on met un peu de temps. Des fois, là, cette fois, enfin, on a eu un mail cette semaine où on a mis un peu de temps à répondre, mais
des fois, on se concerte avant
voilà,
de répondre.
Parce que c'était un bel, mais c'était très sympa. Mmh. En tout cas, continuer à nous faire des retours, ça fait toujours plaisir. Eh ben, on va continuer. Pas du tout. On va même commencer cette émission.
Et juste, on est aussi présent sur un réseau social.
Ah oui, on est. Voilà.
On commence par un F qui est tout bleu.
Voilà. On y est. Mais alors, n'écrivez pas là-bas parce que déjà que sur le mail, on a fait du mal. Mais alors, là, c'est pas la peine. Et donc, du coup, Stan, tu va démarrer, bah justement, on va démarrer avec quelque chose qui est en lien avec les réseaux sociaux quelque part, et c'est oui. Le fact-checking. Qu'est-ce que c'est donc ce truc?
Alors, entretien, ça en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais je vais un petit peu revenir dessus. Et on va commencer, comme toute bonne chose qui démarre, on va commencer par une source Wikipédia. Définition Wikipédia du fact-checking. Donc ça désigne une méthode créée aux États-Unis dans les années 90, assez récent quand même, qui consiste à vérifier la véracité et l'exactitude de chiffres et d'affirmations factuelles présentes dans des textes autres que littéraires. Voilà. Donc, dans l'idée, un peu plus... Alors, là encore, je ne suis pas un spécialiste de ça, hein, c'est un peu compliqué, donc il y aura forcément des erreurs, il y aura forcément des approximations, j'en suis désolé à l'avance, mais on va grossièrement dire que le fact-checking, donc c'est une pratique journalistique, en fait, c'est de la survalidation d'informations. On va valider, revalider, valider, valider. On ne va pas se contenter de dire que parce qu'un expert a dit quelque chose, c'est forcément vrai. On va le faire valider par d'autres experts. On va le faire valider par un maximum de choses. Des données officielles, Internet, les réseaux collaboratifs. Voilà, un maximum de choses pour valider ce qui a été dit. Ça va bien entendu de pair avec le fait de citer à chaque fois ses sources. Parce que c'est indispensable quand on veut essayer de valider quelque chose, il faut bien citer les sources. Et donc c'est le principe de certaines émissions qu'on connaît un peu tous, Arrêt sur image sur France 5, qui actuellement continue plus sur Internet que sur France 5.
Elle est plus sur France 5, elle est que sur Internet maintenant.
Depuis je sais plus quand, mais plus sur France 5. Ouais. Ou de la rubrique Désintox de Libération depuis 2007, ou Les Décodeurs sur Le Monde. Il y en a d'autres, hein, à les chercher à chaque fois. Non. Beaucoup de journaux en proposent. D'autres n'en proposent pas pour des raisons éditorialistes. Enfin, chacun le fait à sa manière. Pour un petit peu parler de fact-checking et en quoi est-ce que ça a parfois été vraiment, vraiment bien, il y a eu, quand Obama a été élu, donc il y a eu un site qui a été créé qui s'appelle l'Obameter, qui est visé à vérifier la possibilité de réalisation des engagements de campagne de toutes les promesses du président américain nouvellement élu, et ça avait été récompensé du prix Pulitzer, donc un prix journalistique, donc on est bien dans une pratique journalistique. On a également, dans les initiatives un petit peu sympas, il y avait pendant un débat du 27 septembre 2012, dans Des Paroles et des Actes, avec comme invité Jean-Marc Ayrault, qui était à l'époque Premier ministre, il y avait toute une équipe justement de vérificateurs, donc de fact-checkers, pendant le débat, pour valider tout ce qui a été dit, est-ce que c'était les bons chiffres, est-ce que c'était ça. Donc c'est quand même quelque chose, moi personnellement, je trouve super intéressant.
Ouais, ça, c'est que ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est de ne pas laisser, ne pas repartir avant la fin de l'émission, radio ou télé, ou même la fin d'un article, en disant, vous avez dit quelque chose et on prend ça pour argent comptant.
Voilà.
Le but, c'est de dire, t'as dit ça il y a 25 minutes, mais en fait, le vrai chiffre, c'est ça. Et du coup, ça amène de la contradiction, mais surtout des faits concrets. Quoi,
mais ce qui peut être aussi prendre dans notre sens, ce qui est très intéressant, c'est de se dire, vu qu'il n'a pas été contredit là-dessus, c'est que c'est vrai.
Oui, c'est ça.
C'est pas que le côté, ce n'est pas vrai. C'est aussi le côté, ça a été validé, les mecs ont vérifié derrière, et ok, ça, on peut le prendre pour, c'est une certitude.
Et du coup, tu dis parler donc des sites qui font ça, c'est aussi accessible via Internet, c'est pas que dans les journaux papier.
C'est même essentiellement sur Internet, il y a quelques journaux qui en font des rubriques papier, mais souvent en fait c'est des rubriques un petit peu secondaires, on va dire, et donc on retrouve pour la grande majorité sur Internet, c'est soit des sites dédiés, soit des rubriques dédiées, mais voilà. Voilà, donc on pourrait même croire que le journalisme, de manière globale, fait du fact-checking de base, en fait, son métier. C'est pas vraiment le cas, mais après on peut le comprendre, parce que l'information de nos jours, on demande une information très rapide, on demande c'est la course à l'information de toute manière, et puis le qualificatif d'expert doit pouvoir suffire à ce moment, à se dire, ça doit être vrai, donc je le dis, je le relais. Mais voilà, c'est intéressant, c'est pas toujours le cas. Quand on a beau faire du journalisme, on a beau valider un petit peu ces informations, le fact-checking, justement, c'est ce que je disais, c'est que c'est de la survalidation. C'est qu'on va vérifier vraiment est-ce que ces informations-là, elles sont vraies. Voilà, alors là, je me perds un petit peu, comme d'habitude, parce qu'il faut faire ça bien. Voilà, donc j'en arrive à ça. Non, mais je suis bien là. Voilà, donc moi, je vais en parler un petit peu par rapport à une situation concrète qui s'est passée en début décembre. Et je vais parler via un article sur Medium de Samuel Laurent, donc qui est journaliste du Monde et donc des décodeurs, que vous pourrez trouver facilement, qui parle justement de fact-checking, de la propagation de l'intox. Voilà, donc. On part sur un tweet de Nicolas Meillan, qui est ingénieur automobile de formation et membre du collectif Les Éconoclastes, qui date du 7 décembre et qui dit, alors là je cite textuellement, « Pourquoi aucun média ne parle de l'éléphant dans la pièce, à l'origine de cette vague de pollution, les centrales à charbon allemandes ?» Et il présente une carte avec des couleurs rouges sur l'Allemagne. Voilà. Donc là, on est en plein pic de pollution sur Paris, la circulation alternée. Le débat ici n'est pas de savoir si les centrales à charbon, c'est bien ou pas bien, ça, on s'en fout complètement.
Non, par contre, on va rappeler que le monsieur est très orienté, parce que c'est un productiviste à donf et un pro-bagnole comme rarement on en a vu. Hein.
Voilà. Donc. Mais forcément, ça c'était justement, il y avait tout le débat sur la circulation alternée, que ça ne sert à rien, il y a plein, mais bon, on ne va pas rentrer, c'est pas le débat aujourd'hui, le débat c'est juste, une personne a fait un tweet en utilisant une carte, sans autre information, sans rien, et donc le tweet commence à être relayé 2000 fois. Il y a des doutes qui s'installent, il y a des gens qui se disent bah non, enfin je crois pas, enfin tout nous donne à croire que non, il y a déjà eu ce débat en plus en 2014 en fait, donc je vois pas pourquoi ça aurait changé. Donc il y a France Info qui s'y intéresse et qui publie qui fait une vérification et qui contredit ça en utilisant en plus en ayant vérifié les informations à l'aide de l'institut qui édite les cartes en question. Donc d'autres experts. Là, il y a cet article qui paraît, il y a une contre-attaque de Nicolas Meillant sur le site Les Éconoclastes. Invente des informations souffle sur Le Monde et France Info. C'est le titre de l'article. Donc il y a beaucoup de démonstrations, beaucoup d'articles, et on va finir en fait par un article qui conclut un petit peu tout ça. Donc c'est le troisième article sur le sujet des décodeurs de Adrien Sénéca qui dit donc non, le pic de pollution ne vient pas d'Allemagne. Voilà. Bon, jusque-là, il y a eu débat, il y a eu des vérifications, il y a eu une analyse finale. Très bien. Il n'y a pas grand chose à en redire. Très bien. Donc le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, c'est qui est-ce qui a relayé cette information, l'information première, et l'article des Éconoclastes, alors que tout le monde porte, enfin tout dit qu'à la fin, ce n'est pas vrai.
Est-ce que quelque part, ce qui a fait que ce tweet était très crédible, c'est aussi le fait que la personne qui l'a édité est une personne censée, enfin ingénieure, qui a une position qui est censée être celle du regard objectif et de l'information.
Oui et non, parce qu'il n'est pas climatologue, il n'est pas, voilà. Mais là, c'est vrai, cette notion d'ingénieur, cette notion de, voilà, donc qui permet de... Et aussi, on n'a pas parlé, la manière de faire le tweet, de dire pourquoi aucun média ne parle de ce côté on vous cache quelque chose,
un peu complotiste,
etc. Qui ça marche un petit peu.
Mais ça marche bien, ça, parce que c'est un peu le truc des réseaux sociaux où, comme de toute façon, t'as plein d'informations qui te passent devant les yeux. Plus t'as un titre accrocheur et donc un petit peu comme ça, le complot, ça accroche toujours. C'est comme au cinéma, quoi. Les films, on aime bien le côté un petit peu ah tiens, il y a un méchant, mais on sait pas qui c'est, tu vois. Et là, c'est vraiment le titre comme ça, genre qui dit ah là là, on te cache quelque chose. À toi qui as eu la chance de voir ce tweet passer. Tu vois, c'est fou, quoi, parce que c'est une vieille méthode, mais
ça marche, c'est magnifique, ça. Et donc voilà, donc le vrai problème, c'est donc qui est-ce qui relaie l'information. Et on a tout d'abord Stéphane Soumier, directeur de rédaction de BFM Business, qui relaie ça, très content. Puis Les Échos via Jean-Marc Vittori, avec, alors là lui il va plus loin parce qu'il fait un petit titre à son tweet pour relayer ça. Retour de Boomerang sur le fast-checker à propos de l'effet de charbon allemand dans le ciel parisien. Instructif. Il y a le délégué de la rédaction des Échos, Dominique Seux. Donc voilà, on a des gens très importants qui ont le prisme journalistique en fait, qui relaient cette information. Et même si c'est pas parce que sur internet, sur Twitter, il y a cette espèce de légende qui pourtant est tellement fausse, qui m'énerve particulièrement personnellement, qui dit que les tweets n'engagent que moi. Quand on est rédacteur en chef d'un journal, quand on dit, bah en fait voilà, regardez, Le Monde, France Info se trompe, on dit clairement, Les Échos disent que France Info et que Le Monde se trompe.
Et puis il ne faut pas oublier non plus qu'un directeur général d'une publication, c'est quand même celui qui en a la ligne éditoriale.
Oui.
Donc quand le directeur général balance un tweet, bah, c'est que son journal est un peu d'accord avec lui. Enfin, je veux dire, il faut arrêter, ou du moins, il va orienter la ligne éditoriale de son journal dans le sens de sa vision du monde. Enfin, voilà. Donc quand il partage ça... Puis bon, la liste que tu as donnée, c'est que des défenseurs de l'industrie lourde et de l'industrie automobile, quoi. Donc bizarrement, BFM Business, Les Échos, on n'est pas sûr.
Côté BFM, on est aussi sur de l'information...
Enfin, de l'information, direct, pas vraiment, mais...
Voilà, l'information rapide en direct, l'information continue, donc
du sensationnel,
non vérifiée.
Oui, tout à fait.
Alors, bon, bien entendu, après, il y a eu beaucoup de débats et d'interpellations, et donc les deux derniers des Échos ont retweeté et ont donc validé en fait indirectement non, le pic de pollution ne vient pas d'Allemagne, en citant juste après l'article des décodeurs qui dit que non, ça ne vient pas de là. Donc eux, ils pensent avoir fait un petit peu leur travail, c'est bon, on a cité les deux, tout se passe bien, tout ça.
Avec la nuance que la première fois, il met quand même une petite phrase qui appuie le truc, et la deuxième fois, il fait que retweeter. Donc c'est pas la même chose. On fait dire qu'il a fait son boulot, bah non.
Ah non,
parce qu'il oriente quand même le truc.
Lui, c'est l'impression d'avoir fait son boulot. Lui, bon.
Non, mais on voit que même là, il y a une forme sémantique qui est bien trouvée, quoi. C'est-à-dire, j'ai balancé les deux. Bon, il y en a un que j'appuie avec un petit message quand même, l'autre que je fais que retweeter, comme ça au moins. Mais sauf qu'en fait, tu mets un poids sur l'un et pas sur l'autre.
Et on voit bien même le côté via ce tweet, en donnant un petit peu ce fait, ah, le retour de Boomerang, c'est le petit sentiment de plaisir, en fait, qu'ils ont à se dire, ah, regardez, les fact-checkers, ils se sont trompés, ils ont tort, ça sert à rien ce qu'ils font, de toute manière. Parce que eux, ils se sentent agressés, en fait, en tant que journalistes, qu'il y ait une entité qui surveille et qui valide, en gros, ce qu'ils disent, alors qu'ils pourraient s'en servir comme quelque chose de bien. Ils pourraient s'en servir comme quelque chose de vraiment une plus-value dans leur travail, qui, s'ils ne sont pas repris, bah de toute manière, ça veut dire que ce qu'ils ont fait, ils ont bien fait leur boulot, ils ont relayé une bonne information. Et si jamais ils sont trompés, ce qui arrive à tout le monde, et ce qui peut arriver à un journaliste parce qu'il a fait confiance à une personne, parce que voilà, pour précipitation, il fallait relayer une information importante, ils l'ont fait, ils peuvent revenir dessus le lendemain. Donc ils peuvent toujours garder cette idée de on relaie la bonne information. Mmh. On a une entité qui surveille après nous et qui revalide un petit peu ce qui est un petit peu. Voilà, où on n'est pas totalement sûr. Et donc non, là, il y a vraiment ce sentiment, regardez, ah là là, ils se sont trompés, c'est génial, ah là là, la honte sur eux, c'est fantastique. Et même, il y a ce côté qu'on a retrouvé dans la campagne de Trump, en fait, ce qu'on appelle la bulle de consentement, où c'est qu'ils avaient envie de croire que les gens s'étaient trompés. C'est pas, ils ont pas vérifié l'information, ils sont pas allés chercher, ils sont pas allés se dire, ah c'est vrai, enfin, en effet, ils se sont trompés, c'est juste... J'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que les fast-checkers se sont trompés, comme ça, ça les discrédite complètement et ils ne pourront plus jamais me discréditer.
Non, mais c'est éternel, comment dire, le journaliste intouchable. Oui. Alors que le journaliste, il peut se tromper, mais ça, il y en a peu hein, qui vont se dire oh, je me suis planté.
Mais j'ai l'impression que ça vient aussi du fait que le journaliste, pour vendre, il doit vendre l'information. Et l'information, elle doit être réelle. La plus réelle se vend le mieux. La plus réelle et la plus spectaculaire.
Alors pas forcément la plus réelle, la plus spectaculaire du coup.
Et d'où le fait qu'il y ait des chaînes comme BFM TV qui vont chercher par exemple l'information au direct, au plus rapide, et sans forcément vérifier les sources, donc avec la possibilité de créer un malentendu, d'avoir une mauvaise information. En effet, comme dit Stan, si c'était assumé et que du coup les fact-checkers pouvaient derrière revérifier l'info et que c'était utilisé, ça serait... quelque part correct, ça serait un relais de l'information qui serait au plus proche de la réalité, mais ça ne vendrait pas. C'est ça le vrai souci, c'est que là, en fait, ce qui est reproché aux fact-checkers, au final, c'est pas tellement de dénoncer une vérité ou pas, etc. C'est de risquer la crédibilité de certains journaux et donc de bien risquer entendu. Leur chiffre d'affaires.
Tout à fait. Et donc là, bon, on se retrouve dans une situation où il y a plein d'articles, trois uniquement sur les décodeurs pour rectifier cette histoire. Sur les réseaux sociaux, il a fallu... En reparler. Et même à la fin de tout ça, enfin, qui est-ce qui a le temps de lire plein d'articles sur le même sujet? Le doute est toujours là, personne ne semble d'accord, qui a raison? Même moi, quand je faisais la chronique, j'ai lu plein de fois les articles en boucle en me disant, mais est-ce que je vais parler de ça? Parce que, qui est-ce qui a vraiment raison à la fin? On a toujours ce petit doute. Il y a ce côté complot qu'on a déjà parlé un petit peu. On nous ment, est-ce que, voilà, donc, si on nous ment, est-ce que les décodeurs nous mentraient-ils pas? Est-ce que.
Et c'est le principe du complot. Hein.
Et oui, bah oui, non, mais c'est ça. Mais non, dire,
tu laisses sous-entendre que celui qui dit la vérité te ment, comme
exactement.
Ça, après, ça part dans tous les sens, quoi.
Et donc bon bah là ça devient pour moi très très grave et on est dans un et il y a cette espèce de combat dans la diabolisation du fact-checking qui pourrait crédibiliser en fait une partie du journalisme et qui est pas utilisé comme ça en fait et c'est enfin voilà moi je trouve ça un peu bizarre. Je vais citer la fin de l'article de Samuel Laurent qui dit donc je vais citer textuellement. C'est le monde dans lequel nous vivons désormais, un monde de surinformation, de malinformation, où l'anecdotique devient centrale, où les faits deviennent des opinions, où croire est plus important que comprendre, et où le journalisme, du moins celui qui a pour but de respecter, rapporter, faire comprendre ces faits, est, si ce n'est agonisant, du moins gravement malade. Voilà. Et moi, je. Alors. Normalement, la chronique devait s'arrêter maintenant. J'ai pris le bus tout à l'heure, donc je vais rajouter quelques petites choses sur le fact-checking. Il y a eu beaucoup, et il y a beaucoup de détracteurs sur cette pratique. Il y en a qui aussi a ses travers, hein. C'est une pratique qui n'est pas que propre, parce que forcément, eux aussi doivent faire du chiffre. Eux aussi doivent faire quelque chose qui est lu. Et il y a un grand site de fact-checking américain qui a vraiment été une référence, qui est un petit peu tombé dans ce travers. Un jour, ils ont fait... ils faisaient tous les mois, c'était le plus gros mensonge du mois. Ils ont vu que ça marchait très très bien. Ils sont mis à fact-checker plein de trucs un peu anecdotiques, en fait, parce qu'en se disant, oh, c'est génial. Et donc, tomber dans le travers complet du truc. Donc, il n'y a pas que des bonnes pratiques à tout ça. Et il y a eu pas mal d'articles aussi qui disaient que l'année 2016 avait un peu mis fin au fact-checking avec le Brexit, avec les élections de Trump, avec ce côté, de toute manière, en fait, ça sert à quoi d'analyser les faits après coup, alors qu'en fait, de toute manière, ça ne mène à rien. Et même, il y avait cette phrase qui disait « Les faits sont morts, à quoi ça sert de les analyser ?»
Ouais, c'est la fameuse post-vérité qui est un truc surréaliste pour moi d'inventer un mot pareil, mais bon...
Non, mais c'est exactement ça, c'est qu'on dit que le fast-checking est mort et il a perdu le combat contre la post-vérité. Ouais. Et l'autre combat qu'il a perdu aussi, c'est la post-vérité, mais c'est pas le combat directement contre la post-vérité qu'il a perdu, c'est le combat contre la désinformation de masse sur les réseaux sociaux. Le fact-checking, lui, est lu par minorité, par des gens qui s'intéressent un tout petit peu, alors que sur les réseaux sociaux, on est submergé d'informations qui étaient complètement fausses. Enfin, qui sont pour la grande majorité pas toujours vraies, en tout cas.
Enfin, fausses ou biaisées. Voilà, c'est aussi le truc, c'est d'être biaisé aussi.
Exactement. Et donc, on pourrait croire que le fast-checking est un petit peu, ben, peut pas contrer ça, mais là, actuellement, se passe pas mal de petites choses. Il y a Facebook et Google, en fait, qui sont en train d'essayer de mettre en place des algorithmes pour faire du fast-checking algorithmique sur leur propre site. Donc, pouvoir dire certains articles, ça, c'est vérifié, c'est vrai. Ça, c'est, on sait pas, ça, etc. Mark Zuckerberg, lui-même, a un petit peu accepté à demi-mot de dire que il était, enfin, son site, son réseau social était en partie responsable de l'élection de Donald Trump. Et qu'il cherchait de manière à qu'il fallait que ça s'arrête, cette désinformation de masse. Et que Facebook est devenu un des réseaux de médias, enfin, d'information, peut-être le plus gros finalement mondial. Et il faut, c'est très important de voir qu'eux aussi en prennent conscience. Voilà, et je vois que tout le monde regarde l'heure, donc je vais m'arrêter.
Non, du tout. je regardais pas l'heure, moi je regardais le monsieur qui fait coucou par la fenêtre puis qui est parti. excusez-moi. Donc non, en fait, ce que je voulais dire, c'est déjà rappeler ce qu'est la post-vérité, parce qu'on balance des mots comme ça. Je rappelle que c'est le concept qui dit qu'en fait, c'est pas les faits et la véracité des faits qui fait une information, c'est le fait d'y croire ou pas. Donc c'est là que c'est un peu surréaliste. C'est comme ça en fait qu'on est dans un système où des gens trouvent que Vladimir Poutine est un mec sympa ou que finalement Bachar el-Assad il est pas si méchant que ça parce que il sourit et qu'en plus il a l'air cool quand il parle. C'est un peu ça la post-vérité et on est vraiment dans ces trucs là. C'était juste pour dire. Et la deuxième exemple que je voulais donner par rapport à ce que tu disais sur le fact-checking, c'est par exemple les photos des terroristes. Je sais pas si vous avez eu vent de cette histoire là. C'est-à-dire qu'après l'attentat de Berlin. Oui, c'était à Berlin, je crois, le camion. Je sais plus, c'est... Oui, pardon. Ouais, c'était à Berlin. Après l'attentat de Berlin, en fait, il y a un site d'information qui a sorti une photo en disant le terroriste, c'est lui. Et donc, il y a un gars, un Pakistanais en l'occurrence, qui a eu sa photo, qui est parti, mais alors partout dans le monde, avec c'est lui, le terroriste. Alors, sauf qu'en fait, la photo n'avait rien à voir avec le terroriste. Elle était juste passée en même temps qu'une autre info. Et il y a eu un gars qui a croisé les yeux et qui a dit, info sur l'attentat de Berlin, photo à côté, c'est forcément lui. Sauf que le pauvre gars, en fait, il était en photo parce qu'il avait fait un concours de d'échecs ou un truc dans le genre. Et il n'avait aucun rapport avec tout ça. Et donc, en fait, il s'est retrouvé, y compris menacé, juste parce que le gars qui a balancé sa photo n'a pas pris le temps de vérifier son information. Et c'est là que c'est grave. Et parce que du coup, il a lui, très vite, un démenti a été lancé. Et malgré le démenti, il y a des gens qui disaient, non. Si sa photo elle est sortie, c'est bien qu'il y ait une raison. Oui, la raison c'est qu'il est champion d'échecs a priori, mais voilà.
Et pas terroriste.
Voilà, mais voyez, c'est ça en fait, c'est toute cette information ultra rapide et qu'effectivement, c'est moi je reste persuadé que la vérification des faits devra continuer parce que on a trop de choses qui passent comme ça, comme des évidences, mais qui peuvent en plus avoir des conséquences très graves. Imaginez si ce gars-là avait eu un voisin un peu flingué de la tête, qui dit oui c'est toi qui as fait ça, qui le croise, qui je sais pas, qui le tue, qui le tabasse ou quelque chose comme ça. Ça va être hyper grave, hyper dangereux quoi. Et donc voilà, je trouve que ouais, la post-vérité et le côté ultra rapide de l'information, c'est une sale période quoi, je trouve. Hein, mais voilà.
J'ai l'impression que de toute manière tout est fait pour qu'on n'ait pas le temps de digérer l'information, donc pas le temps de la traiter ni de l'analyser, et donc l'impossibilité de prendre du recul à partir de là, aucune réflexion n'est possible et on peut continuer à aller acheter des trucs.
Tu as écouté l'émission de la semaine dernière, toi.
Oui,
tu étais là même, hein, donc on fait une petite pause.
Mais allez, musique.
Peut-être elle n'est pas prête, attends. Si, ça y est, c'est bon, ouais.
Toujours prête.
J'accepte ta bière, toi vieil homme, qui dans ce train, sans raison, m'a tordu la main, avec entrain, en me demandant mon prénom. Si tu es là, le hasard,
n'existe pas, j'en suis sûr. Ton visage, seule est l'histoire, celle d'une vie pleine de ratures. Ta pierre, je l'accepte comme le présent du présent. J'ai reconnu l'inconnu, ton regard apaisant. Présent tes peines, souvenir de la guerre, du vin et de la bière coulant dans tes veines. Le temps souffler, la flamme de l'oubli, je puise ma force dans mon passé. Laisse le temps tourner les pages et écrire. Laisse le temps tourner les pages et écrire. Et avec toi, ton ami, vous deux, inséparable, incurable, débris rouge comme le vin de table. Et avec toi, ton ami, rythme de rire, vos silences, la cadence du vieux train de Serbie.
La cadence du vieux train de Serbie.
Oh, je pose ici mon marque-page, car pour sûr, jamais le poids du temps sur son passage ne fera oublier votre aide.
Oh, je pose ici mon marque-page.
Je vous écoute chanter, vois défiler le paysage que ma mémoire va décanter. Temps souffler,
la flamme de l'oubli, je puise ma force dans mon passé. Laisse le temps tourner les pages et écrire. Laisse le temps tourner les pages et écrire. Marque-page, un hymne à ces moments puissants. Sa plume dans l'eau de feu, dans la folie de l'instant. La tristesse n'a pas sa place, les deux ivrognes le savent bien. La tristesse n'a pas sa place dans ce vieux train.
Marque-page, un hymne à ces moments puissants. Puisant sa plume dans l'eau de feu, dans la folie de l'instant. La tristesse n'a pas sa place, les deux ivrognes le savent bien. La tristesse n'a pas sa place dans ce vieux train. Souffler la flamme de l'oubli, je puise ma force dans mon passé. Laisse le temps tourner les pages et écrire. Laisse le temps tourner les pages et écrire.
Ouais, même c'est à moi. Non, mais je suis pas habitué, c'est pour ça. Alors, on vient d'écouter Higher. J'ai bien dit. C'était beau. Et c'est. Moi, j'ai déjà oublié le titre.
Marc Page.
Marc Page. Parfait.
Et c'est dans quelle émission?
Je sais plus. On sait quelle radio?
C'est Radio Canu.
Ah, la plus rebelle des radios.
C'est ça. Et c'est la causerie, accessoirement. Voilà. Et donc.
La plus rebelle des émissions.
Donc, Jonathan, tu avais une petite asso dont tu as déjà parlé la semaine dernière, mais on va un peu en parler. Oui, c'est un peu de l'autopromo, auditeur, on assume total.
Complètement. Alors, la dernière fois, j'ai essayé de le glisser en scred fin de l'émission de Philippe Deschemins.
On va pas faire semblant. Tac.
Personne n'était au courant, tu l'as lancé comme ça.
Ouais, bim. C'était histoire de faire le buzz. Non, mais c'est. Alors, oui, je vais vous parler, cher auditeur, chère auditrice. Cher tout le monde, même les chats et les chiens qui m'écoutent, parce que ça peut intéresser tout le monde. À partir du moment où vous avez un talent artistique, en fait, l'association, la petite première, donc Association Loi 1901, vient d'être créée. Et c'est une association qui permet à toute personne qui voudrait présenter pour la première fois ou se présenter pour la première fois sur scène ou présenter pour la première fois une exposition, ou alors un artiste accompli mais qui voudrait tester quelque chose, tester une œuvre pour la première fois, donc encore une fois sur scène ou en exposition ou en diffusion, peut nous contacter et nous pouvons leur permettre de diffuser leur production donc dans des lieux choisis. Alors, ces lieux choisis, ce sont des lieux avec lesquels nous développons des conventions pour qu'ils puissent accueillir ces artistes. Et donc, comment ça marche, la petite première? Parce qu'à la causerie, on a reçu tout un tas d'associations et on sait bien que le monde ne fonctionne pas à base de fleurs et de paillettes, mais que ça coûte des ronds. Alors, c'est très simple. Pour le concept financier de l'association, c'est nous... On propose à des artistes d'aller dans des lieux, donc que ces artistes, quelque part, ramènent un nouveau public.
Alors, moi, j'ai juste une question. Artiste, c'est quoi? C'est toutes ces formes d'art ou...
Exactement.
Juste musique, juste... Mais voilà.
Tout à fait. C'est toutes les formes d'art. Ça peut être de la musique, en groupe ou en solo. Ça peut être de la rédaction et donc de la déclamation d'écrit, que ce soit des poèmes, des extraits de romans, des nouvelles. Ça peut être de l'exposition, de photos, d'art graphique de tout genre, mais aussi de la diffusion d'audiovisuel. Tout ce qui est de l'ordre de la pratique artistique que l'on peut exposer, que l'on peut présenter. Et donc, pour en revenir au concept, parce que c'est ça qui est assez important, à moins que Stan, tu aies quelque chose à ajouter rapidement.
Je voulais juste, tu y reviendras peut-être après, donc je suis désolé si je dis ça avant. Il y a vraiment tout le concept, justement, c'est la première fois. Mm. Et donc c'est ce fait que les gens dans le public sont aussi au courant que c'est la première fois. Donc il y a une espèce de compréhension de chaque côté, en fait. Il y a l'artiste qui se dit, c'est ma première fois, j'ai peur, mais le public il est au courant que c'est la première fois, donc l'artiste il sait que les gens sont au courant que c'est sa première fois, donc allez-y, c'est plus facile.
En fait, c'est exactement ça. C'est une asso qui dit aux artistes, vous ne mettez pas la pression. Le lieu où vous allez vous produire est déjà au courant de comment ça se passe. Les personnes qui vont venir vous voir sauront que c'est la première fois. Il n'y a plus qu'à vous lâcher et à tenter l'expérience. Et en fait, c'est ça qu'on avait envie de proposer au final des gens, c'est d'oser. Je veux dire, il y a très peu de lieux qui proposent à des gens qui n'ont pas déjà des références dans leur discipline artistique de se produire. Nous, au contraire, sans référence, on peut y aller. Alors évidemment, ça implique de présenter un minimum son travail avant aux membres du bureau de l'association, parce qu'on peut pas se permettre, et je préfère le dire tout de suite à la radio, on a des limites politiques, déjà pour commencer, et des limites éthiques. On pourra peut-être pas laisser un grand artiste qui égorge des chatons. Enfin, je sais pas. Après, ça dépend. Enfin,
ça dépend du chaton.
Vraiment, vraiment appuyer finalement la démarche artistique. Mais voilà, on aura du mal à tolérer les massacres divers et variés, l'oppression, toutes formes de discrimination.
En fait, vous vous réservez le droit de dire non.
Exactement.
Quoi,
pour être clair. Un droit de regard sur. Mais. Par contre, voilà, que ce soit le plus large possible aussi dans ces limites-là, parce que je pense que sur Lyon, il y a tout un tas d'artistes qui n'osent pas se révéler au grand jour parce qu'on ne leur en donne pas l'occasion.
Donc et... vous facilitez en fait les, le lien entre l'artiste et des lieux. Exactement. Et vous chapeautez le concept, le en fait, le fonctionnement.
Exactement, d'accord. Le fonctionnement, la soirée, si c'est sur une soirée ou l'exposition, de A à Z, on propose un soutien. Et pour en revenir à ce que je disais, parce que
c'est qu'il y a des sous.
Il faut le dire, c'est pas gratuit.
Donc c'est super cher.
Donc c'est super cher, en effet. Alors, si tu es un artiste, tu vas devoir payer 1 euro pour une année. Si tu n'es pas un artiste et que tu es un spectateur, mais que tu n'es ni chômeur ni étudiant, tu vas devoir payer 10 euros à l'année pour voir tous nos spectacles. Et si tu es chômeur ou étudiant, tu vas devoir payer 5 euros. Alors c'est simple, hein, ces fonds, ils nous servent aussi à acheter du matériel pour que les représentations soient meilleures, à assurer le fonctionnement.
Pas...
et également
mais pour être clair, ça paye pas de salaire.
Ça ne paye pas de salaire. Voilà, c'est totalement bénévole,
c'est
de notre part.
C'est du fonctionnement.
Voilà. Par contre, les gens qui ne sont pas bénévoles, c'est les tenanciers des établissements dans lesquels vous produisez, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les consommations sont payantes et que c'est au bar que ça revient, et que le but, c'est d'échanger finalement un artiste une possibilité de se produire contre un établissement une possibilité d'avoir une nouvelle clientèle. Donc c'est donnant-donnant. Quelque part, on réunit des services dans le bénévolat.
C'est beau. C'est beau dit comme ça. Et moi, j'ai une question. Donc ça veut dire, par exemple, vous allez... D'ailleurs, c'est quand la première... vous avez une première déjà, vous ?
Alors justement, j'allais y venir, on n'en a pas encore.
Alors quand vous en aurez une...
Oui. On fera l'annonce.
Voilà, mais ça veut dire qu'on arrive... On paye 10 euros à la première, et donc ces 10 euros sont valables un an.
Exactement.
Et donc à chaque fois, on revient avec une petite carte en disant « j'ai déjà payé mes 10 euros, donc moi je rentre tranquille ». Et ceux qui n'ont pas payé, ils payent 10 euros une fois, c'est le ticket unique quoi.
Exactement.
Fait.
Et voilà, petite carte avec le petit nom, numéro d'adhérent.
C'est joli.
Elles sont très belles.
Elles sont belles.
J'en doute pas.
Mais dans la radio Canu, il y a des flyers, ils sont trop beaux. Ouais.
Et alors du coup, il y a un site, il y a un mail, il y a des trucs comme ça pour vous contacter ?
Eh bien oui, parce que c'est bien beau tout ça, mais en effet, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter donc, sur le petit réseau social bleu qui commence par un F, avec tout simplement en tapant la petite première. Vous allez nous trouver assez rapidement puisqu'on est les seuls à porter ce nom-là. Et puis pour toute demande, toute information, toute possibilité de se produire exactement aussi, pardon, c'est la petite première tout attaché sans accent @gmail.com. Donc on le remettra, je pense, sur le site Radio Canu.
Ouais, tout à fait, sur le blog.
Et donc là, l'occasion, c'était aussi de lancer un appel à artistes, puisque en effet, nous n'avons pas encore notre première soirée d'ouverture qui est programmée. Et avant cela, on voulait se faire une banque d'artistes. Donc sachez que même si c'est pas pour se produire tout de suite, ça serait bien que si certains d'entre vous nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour qu'on puisse voir avec eux déjà, à commencer à organiser des choses. Donc, pour se représenter.
Notre but, justement, c'est de chercher d'avoir une banque d'artistes. C'est aussi pour faire des soirées assez thématiques, en fait. On pourrait faire une soirée maintenant avec plein de choses différentes, mais on aimerait un petit peu lier pour que les gens qui viennent, ils sachent un petit peu à quoi s'attendre.
En fait, on veut proposer du spectacle de qualité, même si c'est pas du spectacle de gens expérimentés. On peut quand même faire des choses de qualité, des choses nouvelles d'ailleurs, des choses qui n'ont peut-être pas été vues. C'est pour ça que
votre gimmick.
Notre gimmick, c'est diffusion d'inédits. C'est les choses qui n'ont pas encore été faites.
Et pour l'histoire, moi, je voulais appeler ça mon premier bide, mais ils ont refusé.
Oui, parce que en fait, on avait peur que ce soit pas très engageant. Je
oui.
sais pas pourquoi.
Alors,
ça peut faire peur.
Je pense que ça passerait pas.
Après, je viens de me rendre compte qu'on a oublié de dire qui c'était la petite première. Mais la petite première, c'est Stan, Jonathan et une amie.
Et une
qui s'appelle Morgane et qui
devait être là ce soir, mais qui n'est pas là. Balance là, il faut le dire.
Morgane, si tu nous écoutes, je t'ai balancé, voilà. Mais ne m'en veux pas trop, on travaille toujours ensemble.
Donc l'association, si vous voulez la joindre, c'est lapetitepremière@gmail.com. Et puis voilà.
Tout à fait.
Parce que c'est tout ce qu'il y a comme lien pour l'instant, et le réseau social.
Exactement.
C'est bon.
Tout à fait, et c'est à vous les artistes de nous contacter et de faire en sorte que cette association
Oui, parce que vous, vous démarchez des lieux.
Des lieux et des artistes.
Voilà.
Okay. Donc, si on les connaît. Si on ne les connaît pas, on ne peut pas...
Évidemment.
Voilà. Musique.
Allez.
C'était India Song de Carlos D'Alessio. Et pour la petite histoire, India Song, c'est une chanson qui a été écrite pour l'adaptation d'un roman de Marguerite Duras qui s'appelle Le Ravissement de Lowell Wettstein, dans laquelle est décrite cette chanson. Enfin, dans le livre, cette chanson est décrite. Et c'est à partir de cette description que Carlos D'Alessio, pour le film, a écrit la chanson. Voilà.
Ah, c'est chouette.
Et du coup, Fab, tu vas nous parler d'un autre film.
Oui, je vais vous parler d'un film dont le titre est Your Name. Voilà, alors Your Name, en fait, en japonais, ça s'appelle Kimi no Nawa. Voilà, parce que c'est un film japonais de Makoto Shinkai, ou Shinkai, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé. Et en fait, c'est un animé. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les animés, c'est du manga sur grand écran qui bouge. Voilà. Comme un dessin animé, je vous le dis. Non mais voilà, parce que l'autre fois j'ai dit c'est un animé, les gens m'ont regardé, mais ouais, en fait c'est ça, on dit ça comme ça. En fait c'est du manga filmé en fait. Mais ce n'est pas un manga comme on dit en France souvent, c'est vraiment la notion d'anime. Et donc il est sorti en France le 28 décembre 2016, mais il était sorti au Japon il y a vraiment longtemps, parce qu'il est sorti il y a 4 mois et demi au Japon. Donc, vous voyez, c'est le un peu long d'arriver du Japon à la France, a priori, hein, beaucoup plus que quand on est les Avengers, hein, qui arrivent généralement le même jour. Donc voilà, donc c'est juste pour montrer que, encore une fois, le cinéma japonais dans son ensemble, et les animes en particulier en France, c'est toujours très long pour arriver. Voilà.
Non, c'est juste que les Avengers, c'est des super-héros.
Voilà, ça y est, plus vite. Non, mais alors voilà. Alors, l'excuse bidon qui est donnée par beaucoup de studios, c'est de dire oui, mais c'est vachement dur de traduire du japonais au français. Ouais, alors, faut arrêter un peu de prendre les gens pour des couillons. C'est juste que ça vous intéresse beaucoup moins que de traduire des films américains, c'est tout. Faut arrêter de. Et on a le même effet avec le cinéma indien qui est très peu diffusé en France, alors qu'il y a autant de productions en Inde qu'aux États-Unis chaque année. Donc, voilà. Donc, je vais vous résumer un peu le début du film, donc de Your Name.
Alors c'est Mitsuha qui est une petite lycéenne. Alors je dis petite parce qu'elle est petite aussi en taille. Voilà. C'est la fille du maire d'une ville nichée entre les montagnes. Alors on ne sait pas trop où c'est quand on n'est pas japonais. Alors du coup je cherchais sur une carte. C'est un petit peu dans la banlieue de Tokyo, un peu vers le haut. Voilà, donc c'est les montagnes vers le nord. Voilà, elle vit avec sa petite sœur et sa grand-mère. C'est une demoiselle qui est très franche, qui n'hésite pas à dire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Et par exemple, elle n'a pas envie de participer au rituel Shinto, parce qu'elle est descendante d'une famille de prêtres Shinto. Et elle n'a pas du tout envie d'aider son père à faire sa campagne électorale. Donc ça, on comprend très vite qu'elle a un petit peu du caractère. Ce qui est assez nouveau dans les mangas, parce que ce soit papier, ou dans les animés, où généralement les filles, elles n'ont pas du caractère, parce qu'elles attendent que le héros il vienne les sauver. Là, ça change un peu. Voilà, et elle fait, en fait, elle rêve de pouvoir quitter la ville et elle a envie de partir à Tokyo, à la capitale, c'est son rêve. Dans le même temps, Taki, qui est lycéen, lui, il est tokyoïte et il travaille à mi-temps dans un restaurant italien. Alors vous verrez, c'est intéressant parce que c'est aussi une interrogation, j'en parle un peu plus loin, tout en aspirant à des études d'architecture ou dans les beaux-arts. C'est-à-dire que c'est un rêveur pour les Japonais. Voilà, il ne fait pas partie des gens qui servent à quelque chose dans la nation. Et chaque nuit, il fait un rêve étrange où il devient une lycéenne campagnarde qui vit dans une petite ville entre des montagnes. Et bah oui, vous avez tout compris. Le petit Taki et la petite Mitsuha échangent leur vie régulièrement. C'est-à-dire que Taki se retrouve dans le corps de Mitsuha et Mitsuha dans le corps de Taki, et ceci sans aucun rapport sexuel. Donc c'est juste un échange, c'est juste un échange de corps et de vie. Alors c'est intéressant parce que ça a l'air comme ça tout bête, hein, comme scénario, et pourtant ça va nous amener à beaucoup plus qu'un simple film et qu'une simple histoire d'amour romantique. Parce que le film, en fait, déjà je vais juste détailler deux, trois choses. C'est que c'est extrêmement bien réalisé, c'est très dynamique. Ça fait penser en fait aux grandes heures du studio Ghibli dont on parlait pendant la prépa, le fameux studio de Miyazaki. C'est-à-dire qu'en France, les seuls animés qu'on aime, c'est ceux de Miyazaki. C'est ce que tu disais.
Ah oui, non, c'est ça. Ouais.
Et les autres, on les oublie, alors qu'il y a des superbes animés qui n'ont rien à voir avec Ghibli. Il y a une super description de Tokyo, c'est très drôle parce que moi qui n'ai jamais mis les pieds à Tokyo, je me suis amusé après le film à aller chercher sur internet les noms des lieux pour voir comment ils les avaient dessinés par rapport à la réalité, et en fait c'est extrêmement réaliste, donc c'est assez intéressant parce que du coup ça plonge les gens qui sont tokyoïtes aujourd'hui dans leur propre environnement, c'est-à-dire que le film se passe vraiment comme à côté de chez eux, mais sauf qu'il est dessiné, donc c'est assez intéressant, voilà. Et d'ailleurs, les fans sur place passent en ce moment des heures et des heures à rechercher les lieux qui sont dessinés, voilà, et à les cartographier. Donc, il y a une cartographie très précise de où c'est que ça s'est passé, Your Name. Vous voyez, c'est assez marrant. Il y a même un tour opérateur qui propose maintenant d'aller voir les lieux. Ouais, et tout se récupère. Hein. Et la bande-son est très intéressante parce qu'elle est plus complexe que ce qu'on a l'habitude d'avoir dans des films dits animés. C'est-à-dire que généralement, on a des trucs un peu sirupeux et un peu, voilà. Sauf qu'en fait, là, le réalisateur, il a proposé au groupe Radwimps, qui est un groupe de rock japonais qui existe depuis 2001, de faire la bande-son de son film. Et eux, ils sont réputés, en fait, pour avoir eu plein de problèmes parce que sur scène, ils disent des trucs du genre « Émancipez-vous !» Et ça passe pas très bien au Japon.
Fou.
Voilà. Et c'est drôle parce que du coup, on voit que même dans la bande-son, il allait chercher un groupe qui n'est pas consensuel, alors qu'il aurait pu mettre un pianiste de base qui faisait une bande-son. Mais non, il avait envie de mettre dans son film autre chose. Voilà. Du coup, le scénario est très intelligent parce qu'il n'est pas linéaire, il y a beaucoup de rebondissements, donc on ne s'ennuie pas, ce qui est quand même bien parce que quand on va au cinéma, c'est mieux de ne pas se faire chier. Et il tient vraiment en haleine, c'est-à-dire que tout le long du film, on est là à se dire mais comment ils vont faire, donc c'est vraiment bien fait. Et puis ce qui est drôle, c'est que le film arrive à relier romantisme, science-fiction et action, ce qui n'est pas donné au départ, hein. Il arrive à mettre tout ça dans un même écran, donc c'est balèze. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est le rapport homme-femme. Parce que du coup, vous avez un jeune homme qui échange sa vie dans le corps d'une femme qui habite à la campagne. Et vous avez une femme qui habite à la campagne qui échange sa vie avec un homme qui habite Tokyo. Et en fait, très subtilement, le réalisateur va vous expliquer que la société japonaise, elle a un petit peu beaucoup de retard sur la place qu'elle donne aux femmes.
Alors il va pas le faire bêtement, parce qu'il aurait pu le faire de façon un peu lourde, machin, et ça aurait fait un film certes intéressant, mais que voilà, où on se serait dit bon c'est un pamphlet plus que voilà. Non, lui il va le faire par les détails en fait qu'il va vous mettre tout le long du film. Et là c'est très intéressant de voir par exemple que quand Taki est dans le corps de Mitsuha et que donc du coup il l'incarne réellement parce que ça dure pendant une journée, 24 heures, et ben d'un seul coup les camarades de Mitsuha ils la voient plus pareil. Parce que Taki, c'est un homme. Et Taki, il se comporte comme un homme japonais, dans le corps d'une femme. C'est-à-dire que, par exemple, bah, il estime que s'il a pas envie de faire quelque chose, il le fait pas, point barre. Que quand quelqu'un se moque de lui, il baisse pas la tête, il lui met un pain. Vous voyez, donc c'est très bête, mais ça ramène un petit peu les rapports, l'humiliation qu'il y a vis-à-vis des femmes au Japon. Et donc, c'est plutôt intéressant. Et au Japon, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le film a très bien marché et qu'il en est à plus de 17 millions de spectateurs, ce qui en fait un énorme succès au Japon. C'est le cinquième film le plus vu au Japon depuis la création du cinéma japonais. Donc, vous voyez, c'est pas rien quand même. Et ça continue parce qu'il est toujours à l'affiche et il est toujours à l'affiche comme étant parmi les premiers films vus. Donc, vous voyez, c'est vraiment un énorme phénomène au Japon. Et il a rapporté déjà plus de 10 milliards de yens, ce qui est exceptionnel pour un animé. Hein. Je vous dis, il n'y avait que Akira qui était arrivé à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment un vrai phénomène de société. Donc voilà. Mais ce qui plaît aux Japonais, globalement, c'est surtout les sous-textes du film. C'est pas l'histoire d'amour seulement, le romance et tout. C'est tout ce qui va être mis dans le film, parce que c'est ça qui est bien. Donc il faut aller voir ce film pour ça. Alors déjà... Parce que dans le sous-texte de l'histoire d'amour, en réalité, ce qu'il dénonce, c'est la notion de réussite à la japonaise. En fait, lui, il dit, non, la réussite, c'est pas avoir un job où on fait 60 heures par semaine. Non, la réussite, c'est de réussir sa vie. Donc, c'est déjà de trouver quelqu'un qu'on aime vraiment et pas quelqu'un qu'on prend par utilité parce que c'est la voisine et qu'elle est sympa et lui, c'est le voisin et que c'est sympa. Parce que ça se passe parfois comme ça à Tokyo aujourd'hui. Et justement, il le montre à un moment donné. Il y a des conversations où on comprend qu'en fait, les potes de Taki, eux, l'amour, ils s'en foutent un peu, quoi. Tant qu'ils ont une bonne situation, le reste, on verra, ça viendra, quoi. Et lui, il dit non, c'est pas ça l'essence de la vie. L'essence de la vie, c'est d'abord de se sentir bien, d'aimer et d'être aimé, et surtout de faire des choses qu'on aime, et pas juste d'aller bosser 60 heures. Donc ça paraît très bête, mais dans le Japon d'aujourd'hui, balancer un truc comme ça dans un film, même en sous-texte, c'était pas gagné d'avance, et le réalisateur, il va, puis il fait pas semblant, plus, hein. Alors ça peut sembler chez nous un peu désuet, parce qu'on se dit, ouais, non mais franchement, c'est pas la révolution quoi de dire ça, hein, c'est vrai. Sauf qu'en fait, il faut savoir qu'au Japon, ça fait débat, et ça fait énormément débat dans les journaux qui estiment que ce film est un film qui pousse à tirer au flanc. Oui, parce que aimer, faire un peu ce qu'on aime, sortir de la société un peu féodale japonaise, c'est mal. Donc voilà, donc vous voyez, c'est juste un petit film, hein, comme on dit. Ensuite, il y a une description du Japon actuel qui est vraiment intéressante, qui est tiraillée entre ces mégapoles, donc Tokyo et les autres grandes villes japonaises, mais en particulier Tokyo, qui est vraiment une immense mégapole, et la campagne, qu'on a complètement abandonné au Japon, et où finalement plus personne sait vraiment ce qui se passe dans les campagnes, et où en fait on a une sorte de Japon à deux vitesses, entre le Tokyo ultra moderne et la campagne, où on continue à faire les traditions, mais on sait plus vraiment pourquoi, à suivre certaines choses sans vraiment savoir pourquoi on les fait. Et puis surtout, à nourrir tous ces Tokyoïtes, parce que c'est quand même de la campagne que vient tout ce que mangent les gens de Tokyo, on ne va pas l'oublier. Donc c'est intéressant, et surtout dans un contexte où un Tokyoïte sur trois aujourd'hui est issu d'une émigration venant de la campagne. Donc c'est intéressant de voir que le film parle en fait à déjà un tiers des Tokyoïtes qui ont dû abandonner leur mode de vie, et c'est pour ça qu'il fonctionne, parce que les gens se disent « oui, il a raison ». C'est ça que j'ai dû abandonner. Moi, quand je suis arrivé à Tokyo, plus personne se dit bonjour. On est dans des métros bondés. Il y a accès à rien. On voit pas la nature. C'est entièrement bétonné par rapport. Vous voyez, c'est intéressant. Et du coup, il interroge aussi ce rapport à cette espèce de Japon à deux vitesses. Mais pareil, il va le faire subtilement. Et puis, il va surtout vous poser la question à vous, spectateurs. Alors, les gens de la campagne, ils sont si bouseux que vous le pensez. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il y a vraiment ce rapport même au spectateur, en fait. Et c'est plutôt cool. Parce que c'est d'abord un film qui était destiné aux gens de la ville. On va le dire très clairement. Et il y a aussi un truc qui dénonce, et ça a fait aussi beaucoup, beaucoup couler d'encre au Japon. D'encre et puis de numérique, parce que maintenant on écrit, hein. C'est une vieille expression du 19e siècle. La corruption des élites. Parce qu'en fait, le père de Mitsuha, il veut se présenter à la mairie. Il veut être de nouveau maire du village. Il faut savoir qu'il est maire depuis des années et des années, hein.
Et tout le long du film, vous allez comprendre que son père est une espèce de salopard, en fait, j'allais le dire comme ça, et qu'il est très très corrompu et qu'il corrompt beaucoup beaucoup de gens aussi. Donc en fait, c'est très drôle parce qu'en ce moment au Japon, il y a une grande... une grande chasse à la corruption. Et on sait que beaucoup, beaucoup de ministres, de maires ont trempé dans la corruption, et notamment le maire de Tokyo. Donc, vous voyez, c'est pas bête, hein, voilà. Et donc, du coup, bah, lui, dans le film, il fait pas semblant et il y va pas avec le dos de la cuillère, ou pour justement rappeler que, bah, l'un des premiers problèmes du Japon aujourd'hui, c'est la corruption. Et que voilà. Donc, mais il met ça dans un film très très pop, très coloré et très joyeux. Donc, mais c'est intéressant. Et puis, bah, surtout, il y a la notion des catastrophes. Vous savez, le Japon, c'est plusieurs îles qui sont au bord d'une faille sismique avec deux volcans actifs et accessoirement quelques tsunamis qui lui tombent sur le coin de la gueule de temps en temps. Donc on va pas dire que c'est la région la plus cool,
l'endroit idéal.
L'idéal pour vivre et voilà. Mais sauf que les Japonais, depuis des millénaires, ils sont là et ils ont un mode de vie et ils ont une habitude de se dire, bah, en fait, les catastrophes, ça nous tombe sur le coin du nez, c'est normal. Voilà. Et ça nous paraît très bizarre pour nous qui sommes occidentaux et qui sommes français. Parce que nous, en France, dès qu'il y a une catastrophe, ben on en fait des tonnes et des tonnes. Je donne un exemple, il y a un accident de la route en Gironde qui fait 9 morts, ça fait la une des journaux en France. Un accident de la route qui fait 9 morts au Japon, ça fait pas la une des journaux, c'est pas une grosse catastrophe. Je sais pas, vous voyez, c'est relativiser un petit peu le truc. Mais c'est ça, en fait, le truc. C'est qu'ils sont extrêmement habitués à voir des catastrophes. Sauf que le réalisateur ne veut pas s'appuyer sur des catastrophes réelles. Parce qu'il dit dans son film, il voulait pas le rendre anxiogène, c'est-à-dire l'idée de revenir sur quelque chose qui s'était passé. Donc il va créer l'idée d'une comète qui passe et qui va, dont une partie va se détacher. Alors ça, je vous révèle rien, c'est sur l'affiche, hein, donc voilà. Dont une partie va se détacher, et ben forcément ça va créer des petits problèmes. Mais au Japon, très très vite, les gens ont compris qu'en réalité, ce dont il parlait, c'est de Fukushima. Parce que Fukushima, c'est paumé dans la campagne, c'est au nord de Tokyo... Et bizarrement, quand ça a pété, et ben tout le monde a fait comme si c'était rien passé à Tokyo. Vous voyez, c'est le truc. Et tout le long du film, vous allez avoir le même rapport avec cette catastrophe à venir, avec cette comète. Donc tous les Japonais ont compris qu'en fait on leur parlait d'eux et de Fukushima. Vous voyez. Sauf que bah, le réalisateur, il avait pas envie de tomber, mais ce qu'il avait envie, c'est de mettre une comète parce qu'une comète, ça revient. Et donc ça peut potentiellement avoir plusieurs fois des catastrophes liées à cette comète, vous voyez l'idée, comme un petit peu les tremblements de terre, les tsunamis et les éruptions volcaniques.
Voilà. Et les explosions de centrales et diverses explosions nucléaires.
Voilà, et c'est ça, et oui, et Hiroshima et Nagasaki, en fait tout ça, en fait c'est contenu dans, on va dire, l'esprit japonais, c'est-à-dire que les créateurs au Japon ont toujours la notion de catastrophe derrière eux. Godzilla, c'était ça. Akira, ça parle de ça, d'une société post-apocalyptique. Ghost in the Shell, ça parle aussi du remplacement par l'intelligence artificielle de l'humanité. Donc, vous voyez, il y a quand même énormément de sous-textes en permanence dans le cinéma japonais et dans les animés japonais. Sauf qu'en fait, ben, en Europe, on n'a pas envie de les voir et on classe ça dans le cinéma pour enfants. Vous voyez, alors qu'on n'est pas là-dedans, en fait, en réalité. Et d'ailleurs, ce film ne s'adresse pas vraiment aux enfants, plutôt aux ados et aux adultes. Donc voilà. Et donc c'est surtout pour ça que, donc c'est pour toutes ces raisons que le film a énormément plu au Japon. Et il faut savoir qu'aujourd'hui l'idée de rencontrer quelqu'un par hasard au Japon, ce qui est assez rare, fait son chemin. C'est-à-dire que maintenant vous avez des gens qui se baladent, qui mettent soit sur les réseaux sociaux, soit qui se mettent devant les cinémas avec un petit panneau en disant « Je veux aller voir Your Name avec n'importe qui pour qu'on se rencontre ». Et ça, dans la société japonaise, je peux vous dire, c'est une grande première.
C'est totalement fou.
Voilà.
Je trouve ça excellent parce que quelque part, on est aussi dans notre société en train de dériver vers ça. J'avais fait une chronique sur les sites de rencontres.
Ouais, tout à fait.
Où la problématique était là déjà, c'était de pas laisser de place au hasard, de pas laisser de place à l'imprévu et donc de pas laisser de place à l'échec.
C'est ça. Et le film part de ce principe-là qu'on peut donc rencontrer par hasard des gens bien.
Ça va encore plus loin au Japon où ils sont dans l'excès à ce niveau-là parce qu'ils sont même, vu qu'on est à leur demander à énormément travailler dans le rôle de la femme, etc. Il y a vraiment et ça n'arrive plus à se rencontrer.
Même pas
par les sites, même pas tout ça. Il y a un problème actuellement, c'est qu'ils ne se rencontrent plus du tout en fait.
Et donc un film arrive à créer en fait une brèche dans la société japonaise. Alors ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Et même le réalisateur s'attendait pas du tout à ce que ça fasse ça. Et vous avez des gens qui s'habillent comme le héros. Et qui tiennent un petit panneau en disant je veux aller voir Your Name avec n'importe qui. Alors bon, en japonais, il doit dire plutôt je pense je veux aller voir Kimi no Nawa que Your Name parce que sinon ça marche pas. Mais voilà, et c'est hyper intéressant de voir que ce phénomène pop, parce que c'est un film pop, hein, c'est un film de culture populaire, et ben finalement va au-delà et va même là où voulait aller le réalisateur, c'est-à-dire dénoncer certaines choses et ouvrir des possibles.
Mais comme tu disais pendant la prépa, on est au Japon, on est sur une île qui est menacée par les tremblements de terre, tout un tas de catastrophes, etc. Et les gens passent 60 heures par semaine à travailler.
C'est ça.
Donc au bout d'un moment, un film comme ça, ça a forcément l'effet d'une bombe parce que ça ramène les gens à se dire mais pourquoi tu bosses ?
Mais je perds mon temps en fait. Et c'est tout honnêtement, c'est tout l'esprit du film. On sent bien que le réalisateur, il aime pas trop le côté working man et working hero qu'il y a au Japon, quoi, du tout. Je voulais finir juste sur une chose et vous inciter déjà à aller voir le film parce qu'il est toujours proposé au cinéma en France. Allez essayer d'aller le voir en VO si vous pouvez, mais c'est pas facile parce que les films japonais sont rarement en VO. Non, je voulais dire que juste en France, il y a un vrai problème avec les animés japonais, c'est qu'on les classe toujours, dont je disais, dans la culture pour enfants, mais ça nous date du Club Dorothée, merci. Sauf qu'en fait, en réalité, c'est pas vrai. Il y a des animés qui s'adressent aux adultes et aux ados, on passe à côté d'une grande part de la contestation japonaise aujourd'hui et aussi de la contestation chinoise et thaïlandaise, parce que c'est deux cinémas aussi où vous avez des animés ou des films qui ont des sous-textes, parce qu'en fait on les classe comme étant dans la culture populaire, donc avec un petit côté un petit peu pédant en disant oh mais ça c'est popu, on s'en fout, sauf qu'en réalité dans ces sociétés-là, ça passe par la culture populaire et que justement, nous, on passe à côté de grandes, entre guillemets, je mets des guillemets, de grandes révolutions culturelles. Je mets des grosses guillemets que je viens de dire parce que c'est pas du tout la révolution culturelle chinoise dont je parlais, mais on passe à côté de révolutions dans les cultures plutôt, parce qu'on refuse de voir que ça change, et ça change par ce genre de films-là, parce qu'on refuse de les regarder comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des objets du présent, et pas juste un truc pour amuser les enfants. Voilà.
On veut pas forcément voir la double lecture, en fait.
Oui.
C'est quand même, pour certains, un film un peu orienté pour enfants, en fait, dans la première vue.
Ouais, alors pas du tout. Mais
alors que pas du tout, en fait. Les propos, la thématique, tout ça n'est pas du tout pour enfants.
Non, et puis honnêtement, je trouve que c'est réducteur, parce que pour moi, un réalisateur qui prend le temps de faire un film d'1h47, en mettant un scénario complexe qui croise beaucoup beaucoup de thématiques, il le fait pas pour des enfants de 10 ans, quoi. Enfin, ouais, c'est pas un Disney. Donc voilà.
Il y a des exemples comme Le Tombeau des Lucioles ou Ghost in the Shell.
Par exemple.
Ou Ghost in the Shell, même si c'est pas très choquant.
Non, mais c'est d'une belle réflexion.
C'est une belle réflexion et les corps sont dénudés très souvent aussi. Enfin, c'est pas du tout pour enfants.
Non, c'est pour adultes. Et d'ailleurs, tu parlais du Tombeau des Lucioles. Pour moi, si vous voulez comprendre un jour le traumatisme qu'ont été les deux bombes atomiques balancées sur le Japon, regardez Le Tombeau des Lucioles, vous comprendrez, parce que c'est vraiment exactement ça, mais c'est fait par un des arts majeurs du Japon, le dessin. Voilà. Ben moi, j'ai terminé et je vous propose de vous poser une question, non ? Non, parce que c'est tard. alors musique.
泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。 いつもは尖ってた父の言葉が 今日は温かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいいから。 もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。僕らタンフライヤー時を駆け上がるクライマー時の隠れんぼはぐれっこ、不安もやなんだ、嬉しくて
死にまで願って手に入れたおもちゃも部屋の隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった一つといつか交換っこしよう。いつもは喋らないあの子に今日は放課後また明日と声をかけた。慣れないこともたまにならいいね。特にあなたが隣にいたらもう少しだけでいい。あと少しだけでいい。もう少しだけでいいから。もう少しだけでいい。あと少しだけでいい。もう少しだけくっついていようよ。
Dans Mouteki, qui est le samedi matin à 9h, mais vous êtes bien dans La Causerie sur Radio Canu le dimanche de 22h à 23h. C'était un extrait de la BO du film Your Name, qui est un film japonais, donc c'est pour ça que c'était un titre japonais. Et comme j'avais envie de vous faire découvrir la BO, je vous ai mis le titre le plus sirupeux de la bande son. Voilà. Et, bah oui, et le titre, c'était Nandemonia, et c'était donc de Radwimps. Voilà.
Très bien.
Et puis ben, je vais continuer avec les brèves, hein, ça ne vous embête pas, parce qu'on est à la bourre. Donc déjà, je voulais m'excuser auprès de l'association Fraco qui nous avait envoyé une info que j'ai oublié de passer la semaine dernière. Donc désolé, Clara, si tu nous écoutes, je suis vraiment désolé, c'est moi qui ai oublié. Voilà. Donc les brèves, donc lundi, ben, toujours pareil, le lundi, la permanence juridique de soutien aux sans-papiers, c'est à la Lutine, 91 rue Montesquieu à 18h30. Voilà, vous pouvez y aller si vous êtes sans-papiers ou si vous êtes proche de sans-papiers. C'est toujours utile d'avoir des soutiens d'avocats et de juristes dans ces cas-là. Le jeudi 19 janvier, à la MJC du Vieux-Lyon, à la salle Léo Ferré, il y a un débat citoyen et une projection de film. Donc c'est L'intérêt général et moi, c'est un film réalisé par Sophie Metrich et Julien Milanesi. Donc ça plonge le spectateur dans une réflexion vivante et sensible sur cette notion qu'est l'intérêt général. Au fond, c'est quoi l'intérêt général et de quoi on parle? Voilà, c'est une enquête sur trois projets d'infrastructures de transport qui amène à réfléchir sur la nature même de notre démocratie dans un monde globalisé. C'est chouette, hein, ça donne envie. Donc c'est à 19 à la MJC le 19 à 20h. Voilà, et l'accès est libre et gratuit et c'est ouvert à tous. Et si vous voulez réserver, c'est au 04 78 42 48 71 ou sur le site de la MJC du Vieux-Lyon. Le vendredi 20 janvier 2001. Non, du tout. Le 20 janvier 2017, je vais y arriver, c'était le 0
ah oui, quand même.
Je viens de dire n'importe quoi. Donc le 20 janvier 2017, donc au bar Les Clameurs, 23 rue d'Aguesseau, dans le 7e, métro Guillotière, à 19h, le groupe Graines d'Anard et le collectif Rhône Notre-Dame-des-Landes vous invitent à une soirée conférence autour des ZAD. C'est quoi une ZAD? Pourquoi cette forme de résistance? Qui sont les ZADistes? Et tout un tas d'autres questions que vous vous poseriez. Eh ben voilà, venez les poser lors de cette soirée. Donc c'est à 19h au bar Les Clameurs le vendredi 20 et il est possible de se restaurer sur place. Et sinon, le vendredi 20 aussi, à la MJC de Villeurbanne, 46 cours Jean Damido, et ça c'est donc métro A, arrêt Flachet pour ceux qui ne connaissent pas. Vernissage de l'exposition d'affiches citoyennes et militantes dans le cadre du cycle Que devient la colère des peuples. Donc la MJC organise une exposition d'affiches militantes issue des archives de l'atelier des Clos et du Cédrats. Donc c'est du 20 janvier au 17 mars et donc vous l'aurez compris, c'est le vernissage le 20 janvier à 19h si je ne me trompe pas. Voilà. Juste quand même pour les auditeurs qui nous écouteraient des pentes de la Croix-Rousse, le Villeurbanne, ça se trouve pas de l'autre côté du Péri, vous pouvez y aller. Il n'y a pas besoin de vaccin. Voilà, alors juste comme ça. Samedi 21 janvier, à la Griffe, vous avez une après-midi autour des Frères de la Côte, et les Frères de la Côte, ce sont des pirates, et c'est la notion de piraterie avec le retour aujourd'hui de la piraterie en Afrique et notamment en Somalie. Donc voilà, c'est à partir de 15h à la librairie La Griffe, 5 rue Sébastien Griffe. Et dimanche 22, il y a une manifestation de soutien à la famille d'Adama Traoré, et pour que la justice soit faite autour de l'affaire d'Adama Traoré, c'est à 14h place Jean Massey. Je vais juste rappeler qu'Adama Traoré a été arrêté par des gendarmes et que à l'issue de cette arrestation, eh ben il est mort et que personne ne veut expliquer ni comment ni pourquoi il est mort. Et donc pour beaucoup de gens, cela ressemble à un crime et à un crime que l'on cherche à maquiller. Donc l'idée c'est de pouvoir faire la vérité et la justice pour Adama Traoré et de pousser à ce que cette affaire ne soit pas oubliée. Donc c'est une manifestation 14h place Jean Massey dimanche 22 janvier. Voilà. C'était dense, hein,
parfait.
Mais voilà, donc, et si vous avez, vous, des brèves à passer ou des news que vous voulez qu'on passe, envoyez-les-nous, je promis, j'essaye de ne pas les oublier. Donc voilà, c'est donc lacausericagneur@gmail.com et on essaye de faire passer ça. Voilà. Et ben on en a terminé pour ce soir.
Eh bien, je crois.
C'était bien, hein.
Ouais,
bon, on va y aller quand même, parce que bon, il est tard quand même.
Un peu, oui.
Clara approuve. Clara approuve ce message. Et ben avec quoi on se quitte, Clara?
On se quitte avec The Strokes et le titre The Modern Age.
Et ben voilà. Bah, bonne semaine à toutes bonne et à semaine. Tous. Bon courage et à la semaine prochaine.
À très bientôt.
Bye.
Ciao.